Bonjour à tous, bienvenue sur l'émission Tout est politique, le carnet de bord de la bataille culturelle sur Radio Courtoisie. Nous sommes ensemble de midi à 13h30 pour une émission consacrée en première partie à la guerre à droite et au mouvement d'extrogir avec Guillaume Bernard et en deuxième partie à la formation aux idées et à l'action politique avec l'Institut de formation politique. Chers auditeurs, vous pouvez participer à l'émission en écrivant au courriel courtoisie@rc.fr ou téléphoner au 01 46 51 00 85 01 46 51 00 85. La droite, la gauche, dans un pays, la France, si politique, passionnée par les débats, Dieu sait que ces deux mots habitent les foyers, pénètrent les esprits et génèrent des discussions enflammées et des querelles sans fin. Petit garçon à 8-9 ans, la prégnance de ces mots, entendus de nombreuses fois dans la bouche des adultes, nous révèle leur importance, sans en saisir la portée. Il n'est pas rare de questionner son père à table dimanche, dit « Papa, nous on est de droite ou de gauche ?» Puis à 13-14 ans, à l'éveil de la conscience politique, la question s'affine. Le pré-ado interroge papa. « Papa, c'est quoi la droite? C'est quoi la gauche ?» Ou encore, habité d'un esprit militant naissant, il catégorise et méprise avec morgue le voisin. « Eux, ils sont à gauche » ou « Eux, ils sont à droite ». Enfin, au premier devoir de philo, au premier engagement politique, le grand de 17 ans prend de la hauteur et interroge papa. Papa, comment définir politiquement la droite et la gauche? Quels sont les marqueurs philosophiques, anthropologiques? Si cette frontière sémantique, si ces marqueurs étaient cachetés du sceau définitif du sens du concept, ce serait aisé d'en saisir les différences, d'en comprendre les enjeux et enfin de se positionner définitivement. Ce serait un simple jeu d'équipe entre les bleus et les blancs. Rien ne serait plus simple. La réalité est tout autre depuis des décennies. Les lignes bougent, les idées glissent, les blocs se recomposent. Les alliés d'hier sont les adversaires d'aujourd'hui. Les ennemis d'avant-hier ont été remplacés. Les concepts sont élastiques, protéiformes, vivants. Des idées semblent passer de gauche à droite, comme l'islamophilie repoussant Zemmour à la lisière la plus à droite. Des idées glissent de droite à gauche, telle la notion d'interventionnisme militaire. Des idées effectuent un aller-retour, comme le libéralisme, à gauche à ses débuts, puis à droite dans les années 80, pour revenir à gauche à présent. D'autres s'éteignent, comme la lutte contre l'IVG, dont le dernier adversaire de la loi Veil aura été Gollnisch. Même le parti VIA ne s'y aventure pas, pour dire. D'autres naissent, comme le souverainisme, davantage transpartisan. Celui qui se dit de droite dans les années 80-90, guerroie avec les libéraux contre les rouges. Aujourd'hui, les libéraux sont passés à gauche chez les démocrates sociaux. Ainsi, Madeleine se retrouve avec Macron et la droite s'enracine dans une aile conservatrice et identitaire. La justice sociale, accaparée hier par la gauche, est brandie aujourd'hui par le RN et l'électorat rouge est passé de l'autre côté. Et cette même gauche se crée alors deux nouvelles injustices à combattre et donc deux victimes à défendre, le woke et l'immigré. Quant à l'anticapitalisme, il a glissé vers l'extrême gauche. Comment s'y retrouver ? Ne faut-il pas proposer une autre lecture, une matrice politique à plusieurs entrées? Les relativistes versus les conservateurs, les multiculturalistes versus les identitaires, les européistes versus les souverainistes, et enfin les étatistes versus les girondins. Ou encore, comme certains l'affirment, ne faut-il pas estimer le clivage droite-gauche dépassé pour s'en approprier un nouveau? Par exemple, les patriotes versus les non-patriotes. Et à l'approche de la présidentielle de 2027, les cartes ne sont-elles pas à nouveau redistribuées, confirmant l'impermanence de la droite et de la gauche? Pour en parler aujourd'hui, j'ai le plaisir d'inviter Guillaume Bernard, dont le livre que je présente à nos auditeurs, « La guerre à droite aura bien lieu » aux éditions d'Esclée de Brouwer, ouais. n'a pas perdu une ride, puisque vous l'avez écrit il y a une dizaine d'années, oui. Et il est toujours d'actualité. Alors Guillaume Bernard, bonjour.
Bonjour.
Merci
Thomas
d'être avec nous. Vous êtes docteur et maître de conférence à l'ISS, historien du droit, spécialiste de l'histoire des institutions françaises et des idées politiques et juridiques. Vous avez notamment coécrit le dictionnaire de la politique et de l'administration en 2011, l'instruction civique pour les nuls, et dans 10 jours sort le livre « Vous n'aurez pas la pucelle de Lorraine chez l'homme nouveau ». Vous êtes chroniqueur également à Valeurs Actuelles. Et comme je l'indiquais dans mon édito, votre livre « La guerre à droite aura bien lieu, le mouvement d'extrogir » n'a pas perdu une ride. On va passer 300, s'il vous plaît. Merci.
Le problème a pris une telle ampleur dans l'opinion publique que les hommes politiques se décident enfin à parler concrètement. Ainsi, l'opposition, toutes tendances confondues, est réunie pour 48 heures à Villepinte, dans la grande banlieue parisienne. Reporter Véronique Saint-Olive, Pascal Ponce.
Les organisateurs, Madeleine pour l'UDF et Sarkozy pour le RPR, n'ont rien laissé au hasard. Entre le gouvernement et Le Pen, l'opposition se doit de proposer des solutions concrètes.
Nous n'acceptons ni la xénophobie, ni la francophobie. La France n'est pas un pays d'immigration et nous devons nous donner les moyens réglementaires et administratifs de gérer un quota zéro d'immigration.
Au CNI, au RPR, au Parti Républicain, tous sont d'accord.
Voilà, et regardez dans le texte de synthèse, il était question de fermeture des frontières, de suspension de l'immigration, de prestations sociales réservées aux Français, regardez, ça s'appelle la préférence nationale, et de l'incompatibilité entre l'islam et nos lois. C'était le texte de synthèse. Vous avez changé d'avis ?
Celui qui n'accepte pas la rupture, la méthode, ça passe ensuite. Celui qui ne consent pas à la rupture avec l'ordre établi, politique, ça va de soi, c'est secondaire, avec la société capitaliste, celui-là, je le dis, il ne peut pas être adhérent du Parti socialiste.
Il faut stopper l'immigration officielle et clandestine. Il est inadmissible de laisser entrer de nouveaux travailleurs immigrés en France, alors que notre pays compte près de 2 millions de chômeurs français et immigrés.
Merci. Alors ces trois sons, c'était pour illustrer mon édito, mais également, Guillaume, je vous laisse la parole pour montrer en quoi votre livre n'a pas pris une ride. Alors, est-ce que vous pouvez nous expliquer, selon vous, pourquoi il est toujours d'actualité ?
Écoutez, en tout cas, je suis très heureux, cher Thomas, de cette question, parce que un certain nombre de mes interlocuteurs s'imaginent que j'ai fait un ouvrage de sociologie politique. La guerre à droite aura bien lieu. Voilà, ça ne serait que de l'analyse des petits conflits entre les organisations partisanes, entre les écuries présidentielles. Or, ce que j'ai essayé de faire, ce que je continue à faire, maître d'actualité dans les chroniques que je peux écrire pour Valeurs Actuelles ou pour ou dans d'autres des articles dans d'autres journaux. Ce que j'ai essayé de faire, c'est de faire une analyse qui essaye de combiner le doctrinal et l'électoral, qui essaye de combiner le sociologique et l'idéologique. C'est-à-dire que je pense qu'on ne peut pas analyser les forces politiques dans l'histoire et sur une longue durée si on ne combine pas ces deux aspects des choses. Et donc c'est vrai que mon ouvrage sous-titré Le mouvement d'Extrogir, c'est beaucoup plus un ouvrage de philosophie politique, un ouvrage d'analyse par thème, je dirais, des grandes options philosophiques qui se posent et qui sont possible, je dirais, de choisir lorsque l'on est au gouvernement ou lorsqu'on est électeur, de choisir lorsque, eh bien, on a à se prononcer lors d'un suffrage. C'est donc une présentation des enjeux philosophiques sur tout un ensemble de questions qui se posent aux Français dans l'histoire politique contemporaine. La Constitution, la sécurité, l'immigration, l'identité, la bioéthique, etc.
Alors, selon moi, il y a deux choses importantes. Un, est-ce que il n'y a que le mouvement d'Extrogir, ou est-ce qu'aujourd'hui, il y a un mouvement inverse, peut-être sur certains points, mais pas surtout le sinistrogir ? Première question. Et deuxième question, comment se formalise cette fameuse guerre à droite au regard de ces deux concepts ?
Alors, il y a beaucoup. Je vais essayer de ne pas faire de tunnel. Vous m'interromprez au besoin, mais les questions sont quand même très larges. Déjà, il faut d'abord savoir ce que j'appelle le mouvement d'Extrogir. Le mouvement d'Extrogir, c'est le fait que, premièrement, la pression idéologique venue de l'une des principales familles politiques de la gauche, qui est le collectivisme, a, pour l'essentiel, cessé. Je ne dis pas qu'il n'y a pas encore des collectivistes à gauche. L'effondrement de l'Union soviétique, la chute du mur de Berlin font quand même que la pression idéologique venue de cette famille politique-là de la gauche, le collectivisme, s'est quand même affaiblie. Le collectivisme est discrédité.
Donc c'est le critère économique, ça ? Plutôt.
Oui, mais pas seulement, parce que vous savez bien que dans la famille collectiviste, il y a ceux qui veulent tout collectiviser, l'ensemble des biens, et puis il y a ceux qui ne veulent collectiviser que les moyens de production. Donc dans ceux qui veulent collectiviser l'ensemble des biens, donc disons les communistes par rapport aux socialistes, il y a quand même évidemment un aspect pas simplement économique mais aussi social, c'est-à-dire le fait que les individus sont niés dans leur singularité, dans leur unicité. C'est pas simplement, je dirais, la vie matérielle, c'est aussi, je dirais, la négation de l'unicité, de la singularité de chaque être humain. Bon, donc premièrement, il y a cet effondrement-là à la fin des années 80, début des années 90. Deuxièmement, il y a des circonstances historiques qui font que, des questions qui étaient considérées comme étant totalement hors sujet sont revenues d'actualité. Qu'est-ce que c'est que l'identité du corps social? Et donc, par conséquent, quelle est sa nature? Est-ce que c'est une construction ou est-ce que c'est, à l'inverse, quelque chose qui est inscrit dans l'ordre naturel des choses? Cette question-là, elle est venue, bien sûr, à cause de l'immigration. Elle est venue à cause de la construction européenne. Où est-ce que l'Union européenne s'arrête? Parce que tant qu'il y a le mur de Berlin, on voit bien où elle s'arrête, cette construction européenne. Après, évidemment, elle peut s'étendre tous azimuts, y compris jusqu'à la Turquie. Très bien. Donc, je ne le préconise pas que les auditeurs, mais je veux dire, il y a certains qui peuvent défendre cette idée-là. Donc, effondrement du collectivisme d'un côté, et d'autre part, circonstances historiques qui font que des enjeux remettent sur le devant de la scène des options philosophiques qui en avaient été écartées, qui en avaient été évincées. C'est ça le mouvement d'Extrogir. C'est le fait que désormais, il y a une pression idéologique qui vient par la droite du spectre politique et qui reconquiert petit à petit de l'espace politique. Ce qui ne veut pas dire que les forces politiques qui sont à droite sont toutes de droite. Ce qui ne veut pas dire que les forces politiques ne sont pas hybrides, ne sont pas incohérentes. Elles peuvent être vraiment de droite sur certains points et sur d'autres points, elles peuvent être un peu phagocytées par la pensée moderne. Ça ne veut pas dire non plus que, il y a, une identification donc immédiate une identification de ce qui est véritablement de droite avec un parti politique.
Oui, vous voulez dire que les idées glissent de la droite vers la gauche,
et puis
les idées d'extrême gauche sortent du jeu.
Oui, elles sortent en partie.
L'exemple le plus frappant, c'est le discours de Mitterrand, qui finalement prenait l'anticapitalisme, par tactique ou par pensée, on ne sait pas, un peu par tactique aussi.
Tactique, il avait très bien compris qu'il était nécessaire.
Aujourd'hui, au Parti Socialiste, on ne parle plus d'anticapitalisme.
Non, bien évidemment. Le Parti Socialiste français a subi la même évolution que tous les partis socialistes à peu près dans le monde, c'est-à-dire qu'ils sont devenus sociodémocrates, c'est-à-dire en fait libéraux. Alors bien sûr, pour un libéral, pardonnez-moi l'expression un peu familière, pur sucre. Évidemment, un social-démocrate keynésien, il n'est pas assez libéral. Mais pour un collectiviste, un keynésien, c'est un ignoble libéral.
Ça dépend d'où on se place.
Évidemment, et donc c'est toujours cette subtilité-là qu'il faut essayer d'avoir. Le mouvement d'Extrogir, redéveloppement des idées qui sont par la droite du spectre politique et qui reprennent de l'espace politique et qui donc font glisser les idéologies dans le sens inverse de ce que l'on avait connu auparavant. Ce qu'on avait connu auparavant, c'est ce que vous avez dit dans votre édito, le libéralisme au XVIIIe siècle, ce sont les idées nouvelles, c'est la gauche. Au XIXe, c'est les positions centrales, c'est l'orléanisme. Et puis, au XXe siècle, eu égard au développement de l'Union soviétique, au collectivisme, le libéralisme avait glissé sur la droite du spectre politique.
Il revient à gauche.
En ce moment, il est en train de revenir à gauche. Et j'ai un autre auteur avec qui je ne partage pas beaucoup de choses, mais avec lequel je suis d'accord sur, l'analyse, c'est Jean-Claude Michéa. Je pense qu'il a raison, et sur ce point-là, je le rejoins. Le libéralisme économique qui avait glissé à droite est en train de se réunifier avec le libéralisme culturel, on va dire, pour simplifier, le wokisme, qui était resté sur la gauche, et ils sont en train de se réunifier. Et c'est pour ça que je suis toujours un peu étonné lorsque l'on me dit que Macron a glissé à droite. C'est pas parce qu'il s'est révélé libéral que pour autant il est véritablement de droite.
Je pense qu'on dit ça, Guillaume, parce qu'il a fait un peu de politique de l'offre. Voilà pourquoi on dit ça.
Oui. Bon, c'est peut-être pas quand même suffisant,
eu
égard au fait que on a quand même un taux de prélèvements obligatoires spoliateur, incontestablement parlant. Bon, donc voilà.
Ce qu'on veut dire par là, c'est qu'il a pas fait une politique de la demande type 80-83.
Très bien. Je suis d'accord. D'accord. Alors, je sais pas si j'ai répondu à toutes vos questions,
mais je rebondis.
Alors, allez-y.
Les idées sociétales.
Oui.
Qui d'autant plus sont faciles à mettre en place plus qu'un programme économique, puisqu'il suffit de mettre une mesure, une loi, etc. Et qui en plus a un effet cranté. C'est très difficile de revenir en arrière.
Ah, oh là là.
Est-ce que les idées sociétales, le mouvement des idées sociétales ne sont pas justement le contre-exemple, si je peux me permettre, de l'idée d'extrogir? C'est-à-dire qu'on s'aperçoit depuis 50 ans, et d'ailleurs Jacques Lang le dit bien, il dit « mais nous, on fait les mesures avant, vous êtes contre, et en fait vous êtes pour 30 ans plus tard ».
Il a malheureusement pas tort, c'est-à-dire que les gens qui sont à droite ne sont pas véritablement de droite pour une grande partie d'entre elles. Et c'est d'ailleurs pour cela que j'ai toujours répété que moi je n'étais pas favorable à l'union des droites, mais que j'étais favorable au fait à l'unité de la droite, c'est-à-dire que des gens qui étaient répartis dans des structures politiques différentes, mais qui, elles, étaient véritablement de droite, se réunissent dans une même organisation. C'est pas tout à fait la même chose que de faire l'union des droites, c'est-à-dire l'union de gens qui sont vraiment de droite et d'autres qui ne sont que à droite. Alors oui, les gens qui sont à droite se laissent impressionner. C'est-à-dire s'ils n'ont pas de colonne vertébrale, doctrinale, s'ils n'ont pas une vision philosophique de la politique, et il est évident qu'ils vont se laisser influencer par les enquêtes d'opinion, ils vont se laisser influencer par le temps qui passe. Et effectivement, ils vont accepter l'effet cliquet. Y compris d'ailleurs, il faut bien le dire, chez des personnes qui sont plutôt bien intentionnées. Je le disais très récemment dans une émission de courtoisie, il me semblait que, bien sûr, c'est très important de se battre contre la GPA, de s'être battu contre la PMA, de s'être battu contre le mariage pour tous, etc. Mais toutes ces évolutions ne sont que les conséquences d'une matrice qu'est la chosification de l'enfant et l'avortement. Et que donc, on ne peut reconquérir du terrain que si l'on n'est pas à la remorque du progressisme, mais si on tape directement sur le cœur de la question. Il est clair que sur ces questions-là, en plus parce qu'elles engagent, bien sûr, de l'émotionnel, du physique, peu d'hommes politiques osent tenir des positions fermes et cohérentes. C'est dommage. Autant le mouvement d'extrogir s'illustre, je crois, relativement clairement sur les questions d'immigration, d'insécurité, autant sur les questions sociétales, évidemment, je suis parfaitement prêt à le reconnaître avec vous, c'est plus timide. Mais ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas d'abord prendre en considération ces questions-là et puis essayer de les développer, de les argumenter.
Je rebondis sur ce que vous dites sur l'immigration. Vous avez raison. Je partage votre point de vue sur l'immigration, en ce sens qu'il y a un mouvement d'extrogir.
Je peux juste illustrer, Thomas.
Mais sur l'islam.
Mais très vite. Dans les années 80, l'immigration est un non-sujet. Oui. C'est-à-dire que ceux qui parlent d'immigration.
Sont des fachos.
Oui. Sont des uluberlus. Les questions démographiques, personne n'ose en parler. Aujourd'hui, même si la question est maltraitée par les gouvernants, il n'empêche que c'est devenu un sujet légitime. Même Gabriel Attal parle de ces questions-là et a introduit cela dans son programme politique pour la présidentielle. Donc, oui, il y a quand même un mouvement d'extrogir. La question de l'identité nationale, la question de la démographie sont devenues officiellement des vraies questions. Peut-être qu'on aurait pu écouter Michel Debré et Alfred Sauvy qui en avaient déjà parlé dès les années 60.
Pour rebondir sur mon son de tout à l'heure sur les assises de la droite dans les années 90-91, où la relation à l'islam et le positionnement vis-à-vis de l'islam était quand même extrêmement ferme et ressemble... Enfin, c'est pas ressemble, c'est du Zemmour d'aujourd'hui.
Oui.
Donc là, on est dans le sinistrogir.
Non, parce que pour envisager, je dirais, la tectonique des plaques politiques, on est obligé de prendre des périodes qui sont quand même relativement plus longues. De manière globale, j'aurais plutôt tendance à vous dire que le discours, la plateforme RPR-UDF des années 90, c'est le début, avec bien sûr l'existence du Front National et de Jean-Marie Le Pen, c'est le début de ce mouvement d'extrogir. Et simplement, il peut y avoir des mouvements de balancier, mais qui ne sont que minime tout de même. Et puis vous le savez bien, alors là pour le coup il y a le chantage à la laïcité, c'est-à-dire qu'un certain nombre de personnes aujourd'hui sur les questions religieuses n'osent pas défendre une vision identitaire et enracinée des choses sous prétexte de la laïcité. C'est-à-dire que peu d'hommes politiques aujourd'hui osent affirmer que c'est pas simplement les racines de l'Europe ou de la France qui sont chrétiennes, c'est l'identité même de la France et de l'Europe qui est chrétienne, bien sûr.
Alors, autre sujet au regard de votre livre, l'euroscepticisme. Vous en parlez, page 225, j'ai noté. N'est-ce pas un mouvement atypique, en ce sens que les idées anti-Union européenne présentent à l'extrême gauche et à l'extrême droite aujourd'hui, donc ça c'est ce que je lis en ce moment, chers auditeurs, c'est moi qui l'écris, c'est pas dans le livre, en ce sens que, est-ce que vous pensez pas que ceux qui étaient anti-européens, qui étaient à l'extrême gauche et à l'extrême droite, il y a 30 ans, sont en train finalement de remonter vers le centre, et qu'on voit de plus en plus, donc ça serait un double mouvement, et que finalement ça serait uniquement le centre à la Macron qui serait européen?
Alors, ce qui est certain, c'est que le centre libéral et démocrate chrétien a toujours été effectivement favorable à la supranationalité. Hein, et que c'est quand même la droite qui est, on va utiliser le terme, il est simplificateur, mais il est quand même utile, c'est quand même la droite qui a quand même été essentiellement souverainiste, ne serait-ce que parce que tout simplement la droite défend l'idée que le père de famille est souverain dans sa famille, le chef d'entreprise est souverain dans sa famille, dans son entreprise, et que le chef de l'État doit être la tête de l'État et à la tête de la nation, et que la nation doit pouvoir défendre, je dirais, sa pérennité historique face à l'étranger. Je crains que certains qui s'imaginent qu'il puisse y avoir une convergence souverainiste ne comprennent pas que le souverainisme de gauche est non pas fondé sur la défense des corps sociaux, mais fondé sur le fait qu'ils considèrent que l'Union européenne, à tort ou à raison, en grande partie à raison, est libérale, et que s'opposant, je dirais, au mondialisme libéral, ils se déclarent contre la construction européenne. Mais c'est pas parce qu'ils sont souverainistes qu'ils sont contre la construction européenne, c'est qu'ils sont internationalistes, oui, collectivistes.
Vous voulez dire qu'ils sont pour une autre forme de mondialisation, c'est... qui n'est pas une mondialisation libérale.
Et
c'est pour
voilà.
ça qu'ils se disent altermondialistes.
Exactement. Ce que vous dites dans votre bouquin, c'est ce que j'allais vous dire. Bon. C'est-à-dire, c'est l'utilisation du terme altermondialiste et pas antimondialiste. Ils se sont rendus compte que le fait d'utiliser le terme antimondialiste favorisait la progression des idées de droite.
Bien sûr. Donc ils ont changé de sémantique.
Et donc ils ont changé de sémantique.
Ceci étant dit, est-ce que vous ne pensez pas que des gens comme Asselineau ou Philippot, qui disent « tant qu'il n'y aura pas de Frexit, on ne reprendra pas les commandes, donc ça ne sert pas à grand-chose de parler des autres sujets. » Et là, on peut être de droite comme de gauche, entre guillemets, parce que, je finis juste.
Allez-y.
À l'époque, il y avait Fabius, qui était contre Maastricht, et il y avait Chevènement.
Contre le traité européen. Fabius, il était déjà contre Maastricht, vous êtes sûr? Dès 92. Non, à mon avis, il était contre le traité européen de 2005.
En tout état de cause, il y avait quand même quelques personnes élues de gauche.
Oui, absolument.
Donc,
oui.
Donc, est-ce qu'on peut pas, à gauche ou comme à droite, aujourd'hui, dire tant qu'on sera pas sorti de l'Union européenne, en deux mots, Frexit, et qu'on reprendra pas les commandes, donc en deux mots, qu'on n'aura pas autorité pour prendre nos décisions pour notre intérêt, ça ne sert à rien de parler des autres sujets?
Alors, je ne partage pas cette analyse, non pas que je sois opposé au Frexit, que les choses soient bien claires. Je pense que l'on peut, il y a quand même un certain nombre de sujets que l'on peut essayer de régler indépendamment de la question du Frexit, ou malgré la présence de la France dans l'Union européenne. C'est une opinion là, hein. Pour le coup, il y a des thèmes sur lesquels j'essaye de parler de manière doctorale parce que j'ai vraiment travaillé la question. Là, pour le coup, je donne mon opinion. Et il me semble aussi qu'il y a des États dans le monde qui ne font pas partie de l'Union européenne et qui connaissent les mêmes déboires en matière d'immigration, en matière de délitement des mœurs, en matière, de destruction de leur identité par la standardisation des comportements et de consommation. Par conséquent, il n'y a pas que l'Union européenne qui est un obstacle à la Renaissance française. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas être favorable par ailleurs à l'indépendance nationale et être favorable au Frexit. En tout cas, par exemple, qu'il y ait un référendum sur la question, moi je trouve que ce serait plus que légitime, et pour ne rien vous cacher, je pense que je voterai pour le Frexit. Mais je ne voudrais pas qu'un certain nombre de personnes s'imaginent que c'est la solution miracle, et que tout d'un coup, par le Frexit, la question de l'immigration serait, comme par hasard, entièrement résolue. Que la question de l'immigration soit moins facilement réglable dans le cadre de l'Union européenne, c'est vraisemblable. Mais qu'en revanche, la sortie de l'Union européenne réglerait tous les enjeux pour, comment dire, je ne sais pas moi, la liberté des familles de choisir véritablement le mode d'instruction de leurs enfants, la possibilité d'assurer, la continuité des familles et le fait de revitaliser la démographie, etc., etc. Je ne suis pas sûr que la construction européenne soit la sortie de l'Union européenne soit la solution miracle. Pour autant, on peut y être évidemment favorable. Après, le problème, évidemment, et c'est promis, je m'arrête après pour c'est que vous pouvez avoir des gens qui se rassemblent contre le traité européen de 2005, des gens qui voteraient pour la sortie de l'Union européenne, mais qui ensuite se diviseraient sur la politique à mener.
Oui, mais on sera souvent.
Voilà. Non, mais très bien.
Très bien, merci Guillaume. Alors, il y a un autre point sur lequel je voudrais que votre analyse politique.
Je vois votre sourire narquois, vous allez essayer de me poser une question piège.
Pas du tout. Partons du principe qu'on est en démocratie et qu'on accepte les partis politiques et que quand ils sont contre la démocratie ou la République, la fameuse République, on les interdit. Mais si on ne les interdit pas, on les laisse dans le jeu. Vous savez comme moi que pendant 30 ans, le Front National a subi ce qu'on appelait le Front Républicain. Bon, donc on ne voulait pas interdire le parti, mais on le laissait sur la place en lui crachant à la figure, en serrant pas les mains. Donc en deux mots, c'est comme si...
Et en servant comme épouvantail, voilà. Évidemment.
Donc en deux mots, c'est comme si on avait un match de foot, on laisse rentrer le joueur, mais on lui passe jamais la balle. donc ce qui est purement justement antidémocratique, c'est-à-dire en critiquant l'autre, on est soi-même antidémocratique. Je voudrais votre analyse sur une chose. À l'époque, c'était le Front National qui était la victime de ce Front Républicain. Mmh. Aujourd'hui, la cible a changé. C'est LFI.
Oui,
et même le RN s'est mis du côté de ses anciens adversaires pour dénoncer LFI et parler de Front Républicain. Ce qui est quand même assez étonnant, parce que sur
ce
le
qui
principe,
est peu fair play,
ils auraient pu dire « Nous, on a été contre le Front Républicain, on est toujours contre, quelle que soit la cible. »
Absolument. C'eût été plus élégant.
Qu'est-ce que vous pensez de ce glissement-là?
Alors d'abord, effectivement, dans la mesure où une force politique est légale, il faut être cohérent. On admet de débattre avec eux et de se confronter, de jouer le jeu des élections. Bon, donc effectivement, votre interrogation est plus que légitime. La seule différence que je vois tout de même, c'est que LFI est ciblée médiatiquement parlant. Mais je ne suis pas certain que ce soit comme ça a été le cas pour les militants et les candidats du Front National. Je dis bien du Front National, hein, pas du RN. Il n'y a pas un côté infamant, je dirais, d'être militant ou candidat ou élu de la France Insoumise. Et puis, il y a aussi le fait que, quand même, dans les urnes, on l'a vu aux dernières municipales, malgré les discours de certains caciques de la gauche modérée, les électorats de gauche modérée et de gauche radicale se sont, en règle générale, plutôt retrouvé dans les urnes. Donc, je pense que le niveau d'intensité du front, entre guillemets, républicain contre la France insoumise n'a quand même pas, pour l'heure, atteint le même niveau que celui que l'on a eu contre le Front National. Il me semble que...
Alors, à l'époque, Jean-Marie Le Pen parlait de l'établissement.
Oui.
En disant qu'il y avait la bande des quatre.
Ouais.
C'était sa sémantique.
C'était sa sémantique.
Qui était assez bien joué, d'ailleurs, oui, comme sémantique. L'extrême gauche, comment s'appelle-t-il,
LFI Mélenchon
joue comment selon vous là-dessus? Est-ce qu'ils sont indifférents? Est-ce qu'ils contre-attaquent? Est-ce que c'est plus dans leur intérêt de rester la victime ou au contraire d'en rentrer dans le jeu?
Oui, je pense qu'ils ont besoin de cliver. Puis ensuite de rassembler. C'est-à-dire que Mélenchon a des origines intellectuelles, si je ne me trompe pas, plutôt de type trotskiste. Mais il a fait partie de ces trotskistes qui ne sont pas restés dans les petites organisations de cette tendance-là. Il est allé au Parti Socialiste, il est devenu sénateur, il l'a grossi et puis il a pris son indépendance au milieu des années 2010. Bon. C'est, me semble-t-il, un fin stratège. C'est quelqu'un qui sait qu'il faut d'abord rassembler son camp et puis ensuite il faut essayer de capter l'électorat flottant. Et donc, il clive,
Bah, il part des extrêmes.
Pour rassembler son camp. Mmh. Et puis ensuite, il cherchera, s'il atteint la deuxième, s'il atteint le second tour de la présidentielle, il cherchera ensuite à capter, soit par adhésion minimale, soit par rejet de l'adversaire, à capter tous ceux qui, eh bien, seront orphelins, je dirais, de l'élection, parce que leur candidat préféré aura été éliminé du second tour. Il y a une stratégie victimiste au départ, et puis ensuite, il y a une stratégie de conquête qui me paraît relativement bien jouée. On l'a tous dit, hein, tout le monde l'a dit, là pour le coup j'enfonce une porte ouverte, hein, je suis pas le premier à en parler, il y a eu une adoption, je dirais, de la stratégie Terra Nova, comme on dit, c'est-à-dire le fait d'essayer d'additionner différents segments électoraux, en l'occurrence d'essayer de mobiliser l'électorat d'origine immigrée pour essayer d'atteindre un niveau politique supérieur
à l'immigré ou...
Oui, voilà. Absolument. Ouvriers qui n'ont pas toujours été, c'est pas parce qu'ils sont ouvriers qu'ils sont de gauche. Hein. On sait très bien que c'est pas le niveau de revenu qui fait le vote à gauche ou à droite. Ce qui fait le vote à gauche ou à droite, c'est deux choses principalement. C'est le patrimoine. Hein. Un agriculteur, il a des très bas revenus. C'est peut-être ceux qui sont les plus pauvres en France. Mais ils ont un patrimoine, ils ont une terre, ils votent à droite.
Et le lien de subordination dans le travail aussi, non ?
Oui, il y a ça. Mais c'est l'idée du patrimoine. Donc c'est vrai pour les commerçants, c'est vrai pour les professions libérales. Le fait, je dirais, d'avoir effectivement un patrimoine professionnel est généralement facteur de vote à droite. Et c'est pas le niveau de revenu, puisque, encore une fois, les agriculteurs ont des revenus infiniment bas, mais pourtant ils votent à droite. Et puis il y a un deuxième facteur, c'est l'attachement aux valeurs, je dirais, culturelles, morales, autochtones. Alors, et pendant très longtemps, ça a été la pratique religieuse. Aujourd'hui, le niveau de pratique est quand même relativement bas, ce qui fait que ça n'est plus véritablement dirimant. Mais en revanche, le sentiment d'appartenance à un corps social. D'où le concept qu'a développé Dominique Régnier, qui me paraît très judicieux, qui est celui de patrimoine immatériel. Pourquoi est-ce que les ouvriers qui ont des bas revenus et qui n'ont pas de patrimoine votent pour le Rassemblement National? Parce que tout simplement, ils ont un patrimoine. Patrimoine immatériel, oui, l'histoire, la culture, l'identité, la langue. Et celui-là, ils ne veulent pas le perdre. Ils veulent le préserver.
Alors, je rappelle à nos auditeurs que nous sommes avec Guillaume Bernard pour le livre « La guerre à droite aura bien lieu, le mouvement d'Extrogir » et qui est un rappel sur le livre qui n'a pas perdu une ride à l'approche de la présidentielle. Et justement, cher Guillaume, vous parlez de la présidentielle. Comment est-ce que vous voyez, pour reprendre votre titre, « La guerre à droite » pour la présidentielle de 2027, il y a multitude de candidats qui se positionnent. Comment vous voyez les choses au regard de votre livre et de ce que vous avez écrit ? Alors, je ne vous demande pas des prévisions.
Non, parce que on est à un an de l'élection et que c'est quand même extrêmement délicat, je dirais, de savoir. D'abord, on ne sait pas qui sera le candidat du Rassemblement National à l'heure actuelle. Plus vraisemblablement Jordan Bardella que Marine Le Pen. Ils ont l'un et l'autre des avantages et des inconvénients. Tant qu'on ne connaîtra pas véritablement les candidats, et notamment ceux qui auront obtenu les fameux parrainages, entre guillemets, c'est quand même difficile de faire des pronostics. Ce que moi je constate tout de même, c'est que ce que j'avais pronostiqué s'est révélé juste, c'est-à-dire que l'espace politique de la droite modérée, il est quand même réduit à la portion congrue, il s'est réduit à une peau de chagrin, ils se sont retrouvés écrasés, hein, pris en tenaille entre la grande coalition des modérés, donc le macronisme, qui va changer de nom. Hein. Attention, c'est pas parce que Macron est très impopulaire que... la grande coalition macronienne, à un moment donné, mais la grande coalition des modérés, va forcément disparaître. Hein. Après, elle va être plus ou moins bien incarnée. Est-ce que c'est Édouard Philippe ? Est-ce que c'est Attal ? Est-ce que c'est quelqu'un d'autre ? On verra bien. Ça ne veut pas dire qu'ils vont gagner, mais enfin, il n'est pas du tout certain qu'ils disparaissent. Bon. Donc, la droite modérée, elle est quand même écrasée, prise en tenaille, d'où finalement le choix qu'Éric Ciotti a fait, à un moment donné, de larguer hein, je dirais le positionnement du nini hein, de Sarkozy ou du voilà ni la gauche ni le Front National, lui il a décidé de s'allier au Rassemblement National. Donc il y a une partie des gens qui sont à droite qui se retrouvent dans la grande coalition des modérés, la droite modérée, on va dire libérale, plus ou moins conservatrice, plus ou moins gaulliste, bon, son espace politique est quand même phagocyté par le camp national populiste. En fait, la question qui va se poser, c'est, moi, je trouve que la question la plus intéressante qui va se poser, c'est comment va se passer l'évolution dans le camp national populiste. Il y a deux options, d'abord. La première, c'est, est-ce que d'abord ce camp-là emporte la présidentielle ? Bon, vraisemblablement le candidat du Rassemblement National. Bon, il n'y aura pas de candidat dans cet espace politique-là qui sera devant le candidat du RN à la fin du premier tour. Bon, premièrement. Ensuite, deuxième question, est-ce que s'il gagne,
Est-ce qu'il pourra gouverner ?
Est-ce qu'ils auront une majorité parlementaire ? Et là, pour le coup, autant pour la présidentielle, disons que leur avance vis-à-vis des autres forces politiques du camp national populiste est telle que, bon, bah, ils peuvent considérer qu'ils n'ont pas de compromis à faire avec ces autres tendances-là. Autant, pour avoir une majorité parlementaire, pour qu'ils aient des candidats qui correspondent au terroir, qui correspondent aux circonstances locales, bah, il faut peut-être être capable d'un certain une certaine souplesse. Hein. On a des endroits en France où il vaut mieux quand même un candidat catholique qu'un candidat connu pour ne pas l'être, par ses mœurs ou par son idéologie.
Bon, ils vont être contraints de rassembler aux législatives.
Ils vont être contraints de rassembler.
S'ils veulent la majorité, donc ils vont ouvrir.
Normalement, oui. Et puis, il y a une troisième étape. Et c'est pour ça que sans doute mon prochain essai politique devrait s'appeler l'étape d'après. Vous voyez,
j'ai une annonce à faire aux éditeurs.
Exactement. L'étape d'après. Autant j'écris, hein, vous le savez. C'est pas le jour d'après, mais c'est l'étape d'après. Il y a une troisième question qui se pose. C'est, bon, admettons qu'ils gagnent la présidentielle, que ce camp-là, ce qui n'est pas certain, hein, mais ce qui est possible, ce qui est objectivement possible, qu'ils aient une majorité, qu'est-ce qui se passe politiquement ? Est-ce que il se passe ce qu'on appelle le déplacement de la fenêtre d'Overton, c'est-à-dire l'arrivée du RN au pouvoir, eh bien, permet à un certain nombre de personnes de radicaliser encore les débats politiques, de mettre dans le débat public un certain nombre de questions que le RN, disons, cache un petit peu ? Ou est-ce qu'à l'inverse, le RN au pouvoir n'aura de cesse que d'essayer d'étouffer l'expression de tout ce qui n'est pas lui dans le camp national populiste pour, dans le fond, espérer que la gauche et le centre, eh bien, ne l'atteignent pas trop, ne l'attaquent pas trop. Est-ce qu'en fait, ils ont compris que ça ne sert à rien de donner des gages à l'adversaire, il ne vous en saura jamais gré. Jamais. Bon. Ou est-ce qu'ils pensent qu'il faudra faire taire, allez, les cathos, les réacs, les roicos, pour ne pas subir les foudres, je dirais, de la gauche qui les accuserait de laisser prospérer cette droite extrême. Disons qu'il y a une crainte réelle de ce qu'on n'ait pas justement ce déplacement de la fenêtre d'Overton, ce qui serait naturel, ce qui serait la continuité du mouvement d'Extrogir, mais qu'on ait plutôt l'inverse, c'est-à-dire un RN qui ferait taire ou contribuerait à faire taire ceux de ces alliés, de ses compagnons de route, de ses critiques.
Je vous interromps, Guillaume. Ce que Marine a fait avec Zemmour la dernière fois. Puisque même si elle s'était fait, entre guillemets, insulter, parce que c'était pas très agréable quand même. L'élégance obligeait, quand on est premier, de tendre la main vers celui qui est second. Oui ou non ? Surtout en politique.
Mais oui, mais je suis parfaitement d'accord avec vous.
Donc, est-ce qu'elle l'a pas fait parce qu'elle a pas reçu, su retenir ses émotions, entre guillemets, ou est-ce que c'était une tactique, selon vous ?
Je peux difficilement sonder sa conscience, mais je crains que ce ne soit une tactique.
Confirme ce que vous venez de dire à l'instant, oui, c'est que vous avez peur qu'ils mettent de côté ceux qui sont trop extrêmes, entre guillemets.
À leurs yeux.
Ok, à leurs yeux, oui.
Étant entendu que cette question-là, elle n'apparaît qu'en troisième étape, c'est-à-dire une fois qu'ils ont gagné la présidentielle, qu'ils ont une majorité de gouvernement, comment est-ce qu'ils gouvernent ? Que voulez-vous ? Dans le programme du Rassemblement national, il n'y a plus le rétablissement de la peine de mort, il n'y a plus le salaire maternel, il n'y a plus le chèque scolaire, il n'y a plus le fait de restreindre ou de diminuer les possibilités de lutter contre l'avortement, etc., etc. Vous avez quand même un certain nombre, je dirais, d'adoucissements ou d'édulcorations du programme qui laissent se dessiner une certaine pente. Voilà.
Alors, pour ça passe vite, hein, on va vous réinviter. Hein.
Avec plaisir.
Donc, un petit mot de conclusion, oui. Guillaume, en quelques minutes, sur l'articulation entre votre livre, donc « La guerre à droite aura bien lieu, le mouvement d'extrogir » de Guillaume Bernard, que je remontre à nos auditeurs, et l'actualité. Est-ce que vous avez un dernier mot à apporter, une réflexion ou... Je sais pas, quelque chose à dire à nos auditeurs sur ce sujet, sur le positionnement.
Les partis
politiques.
Puisque
nous sommes sur la radio de toutes les droites.
Exactement.
Bon, ça, c'est, faut le rappeler.
Les partis politiques sont des entreprises électorales. Et malheureusement, elles résonnent très souvent, je dirais, en termes d'intérêt personnel, et non pas de bien commun. Je pense qu'il faut que nous soyons tous capables de raisonner en termes non pas d'idéalisation, mais de proximité. De qui est-on le moins éloigné ? De qui est-on le plus proche ? Et puis, de ne pas se dire que si une chose n'est pas idéale, eh bien, elle doit être mise de côté. On ne rejette pas un bien sous prétexte que ce bien n'est pas parfait. Bon,
faire des concessions.
Il faut être capable de faire des compromis, non pas doctrinaux, mais d'essayer de réaliser au mieux le bien commun, même si ça n'est pas quelque chose, même si ça n'est pas quelque chose idéal.
Être dans l'éthique de responsabilité.
Oui, alors c'est exactement
plus que dans l'éthique de conviction.
Non, c'est pas ce que j'allais vous dire. En revanche, j'allais vous dire de ce que la politique ne se réduit pas à l'électoral. C'est-à-dire que nous sommes tous capables, par notre engagement au quotidien, dans une association caritative, dans un mouvement de jeunesse, de scoutisme, dans une école, dans une association de restauration du patrimoine culturel ou de maintien du patrimoine naturel, nous sommes tous capables de participer à la réalisation du bien commun, à rendre ce bien commun palpable et à faire comprendre à nos compatriotes que, et du coup j'en reviens à votre édito, que le clivage... Eh bien, c'est effectivement les réalistes contre les idéalistes, les souverainistes contre les internationalistes, les identitaires contre les multiculturalistes, et que l'ensemble de ces questions-là, les conservateurs contre les progressistes, et que il est peut-être souhaitable d'avoir des hommes politiques et nous-mêmes dans notre comportement d'avoir une attitude qui soit cohérente, c'est-à-dire que nous ne soyons pas d'un côté de la barrière sur certains sujets et de l'autre sur d'autres. C'est ça qu'on pourrait espérer de la part de nos hommes politiques, qu'ils fassent preuve d'une certaine cohérence.
Merci Guillaume Bernard, merci beaucoup.
Merci Thomas.
À très bientôt et je remercie mes chers auditeurs. Et nous passons à la deuxième partie de l'émission après un petit appel aux dons, puisque vous le savez, Radio Courtoisie ne vit pas de subventions, ne vit pas de l'État, mais vit grâce à ses auditeurs. Merci.
Vous avez fait le choix de nous rester fidèles. Vous avez fait le choix d'écouter Radio Courtoisie. Vous avez fait le choix de nous soutenir parce que vous êtes libre. Parce que pour vous, tout comme Radio Courtoisie, la liberté de penser, la liberté de parler, la liberté de chercher sont primordiales pour vous. Radio Courtoisie vous offre désormais le choix d'écouter nos podcasts partout et tout le temps sur les plateformes Spotify, Deezer, Apple Podcasts, Amazon Music et sur notre site internet rc.fr et podcast.rc.fr. Gratuitement, pour que toujours cette liberté qui nous unit, qui nous est chère, demeure.
Rebonjour, chers auditeurs. Parler idées, c'est bien, mais ça ne suffit pas. Pour faire gagner la France, il faut également se former et agir. À cet effet, l'Institut de formation politique, créé en 2004, propose à des jeunes Français attachés à notre héritage culturel, à la primauté de la personne, à la liberté et à la responsabilité, de se former et d'agir. Et ce, pour participer au redressement de la France, notre beau pays. Nous accueillons pour en parler Justine Durand, 26 ans. Merci Justine d'être là, de formation ingénieure, responsable des formations et de la communication à l'IFP. Merci Justine. Et Lénaïque Bobin, ancienne scout. Vous avez une formation philosophique et de sciences politiques. Vous êtes responsable du réseau de l'Institut de formation politique qu'on appelle donc l'IFP, que beaucoup de gens connaissent ici à Radio Courtoisie. Et vous êtes l'une et l'autre, évidemment, puisque vous êtes là, animé d'un fort intérêt pour la vie politique, publique, associative. En deux mots, vous aimez la France, comme tout le monde ici, j'imagine.
Bien évidemment.
Alors, est-ce que vous voulez compléter ce que je disais à l'instant sur votre parcours, ou même me dire pourquoi, pourquoi vous êtes à l'IFP, tout simplement?
Eh bien, moi, j'ai rejoint l'IFP il y a maintenant 2 ans, parce que j'avais le sentiment, au travers de mes études, je devais normalement me destiner à servir la terre, parce que je suis d'une formation d'ingénieur agronome et agricole. Et progressivement, en fait, j'ai vraiment eu le sentiment que le pays se dégradait et qu'il était temps de faire changer les choses et que je ne pouvais pas simplement rester spectatrice de la situation du pays. Donc j'ai commencé premièrement à m'engager localement à Lille, dont je suis originaire, avant de découvrir l'IFP, parce que c'est vrai que quand on est militant, on a souvent quand même tendance à entendre parler de ce bel institut. Donc voilà, j'y ai suivi plusieurs formations, je pense qu'on aura l'occasion d'en parler un peu plus tard. Et donc voilà, l'IFP m'a apporté beaucoup de connaissances, de la méthode, une confiance en moi, mais aussi un réseau de personnes engagées autour de moi. Donc voilà, après une expérience en communication politique pendant l'élection européenne de 2024, j'ai rejoint l'IFP il y a maintenant 2 ans où je travaille, et c'est vrai que c'est un vrai plaisir de pouvoir travailler quotidiennement au service de ses convictions et de ses idées.
Lénaïque.
Bonjour Thomas, bonjour chers auditeurs, merci de nous écouter. Je m'occupe du réseau des auditeurs. Donc comme Justine, ça fait environ 2 ans que je suis arrivée à l'IFP. J'ai eu un parcours donc plus philosophique et de sciences politiques, et très vite j'ai travaillé dans les relations presse et les affaires publiques. Mais j'étais assez frustrée de travailler pour des intérêts économiques que je j'approuvais pas forcément. Et donc je cherchais vraiment à m'engager pour mes convictions. Donc j'avais été, comme vous l'avez dit Thomas, chef-ten scout, et mes petits frères avaient fait l'IFP, ils m'en avaient parlé, mais je pensais que j'étais au-dessus de ça, que j'étais suffisamment bien formée, que j'avais pas besoin de faire un week-end de formation vu que j'avais fait des études de philosophie et de sciences politiques. Et donc j'ai attendu avant d'aller à l'IFP, j'ai attendu d'avoir 29 ans, donc c'est des séminaires qui sont pour donc soit pour les lycéens, donc de la seconde à la terminale, soit de 18 à 30 ans pour les étudiants et jeunes professionnels. Et j'avais peur d'être dans les plus vieilles et de me dire, bon, j'apprendrai pas grand-chose. Et en fait, j'étais vraiment étonnamment surprise, déjà par la diversité des profils lors du séminaire. Donc, on est 26 environ à suivre ce week-end. Il y a une super ambiance et je suis ressortie avec des étoiles dans les yeux. Je me suis dit, mais comment ça se fait que je n'y suis pas allée plus tôt? Pourquoi pas d'autres personnes que mes petits frères m'en ont parlé? Et donc, j'ai décidé de rejoindre l'équipe, de m'occuper du réseau. Et vraiment, c'est 2 ans qui ont été bien remplis. Beaucoup de bonheur, beaucoup de découvertes, beaucoup d'espoir aussi pour notre pays. Et surtout aussi une super équipe. Donc voilà.
Alors, je dis à nos auditeurs qui peuvent retrouver l'IFP sur le site ifpfrance.org. ifpfrance.org. Ils peuvent nous suivre sur le site, ils peuvent aller voir effectivement toutes les activités, retrouver ce que vous dites à l'instant. Alors si un auditeur, une personne qui nous écoute, un étudiant, quelqu'un qui veut rentrer, se pose la question parce qu'il n'en a jamais entendu parler, mais quel est l'objectif? Quel est l'objectif de l'IFP pour moi? Qu'est-ce que vous lui dites? J'appelle, oui bonjour, je suis intéressé par l'IFP, j'ai vu ce que vous y êtes, mais qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce que je fais, pourquoi vous faites ça? En deux mots très simples.
L'IFP a été créé en 2004 pour répondre à un constat qui était assez simple, c'est qu'il y avait beaucoup de formations à gauche pour former la jeunesse engagée, mais aucune n'était réellement disponible à droite. Donc, Alexandre Pezet, le fondateur de l'IFP, s'est vraiment rendu compte qu'il y avait une vraie demande de la jeunesse engagée à droite pour aider son pays et servir le bien commun. Mais c'est vrai qu'il n'avait pas de possibilité et de moyens de le faire, parce que c'est vrai que quand on n'est pas forcément issu d'une grande école type ENA ou Sciences Po, on peut se dire que c'est vraiment un milieu qui est totalement inaccessible. accessibles. Et donc, le but de l'IFP, c'est justement de rendre ces formations accessibles à ces jeunes-là. On fait aussi en sorte que le prix ne soit pas un frein à la formation. Donc, nos week-ends coûtent 50 euros du vendredi soir
Alors,
au dimanche
important.
Soir.
C'est important, 50 euros donc pour le week-end.
Exactement, du vendredi soir au dimanche soir. Et si les auditeurs viennent de loin, on peut même les loger et prendre en charge une partie de leur transport pour vraiment
bon,
que
c'est intéressant.
Le prix ne soit jamais un frein à la formation.
Avec la nourriture.
Exactement.
Et le vin.
Et le vin surtout.
Alors, on va pas faire la publicité du vin, mais avec la boisson. Donc, vous en étiez aux formations. Et on parlait de l'objectif, pardon.
Oui,
Justine.
Donc l'objectif, c'est vraiment l'IFP, c'est vraiment l'école de l'engagement. En fait, on forme vraiment les jeunes de 15 à 30 ans qui veulent agir et servir leur pays, mais qui ne savent pas forcément par où commencer. Donc nos formations, elles prennent la forme d'un week-end organisé, du vendredi soir au dimanche. Pendant 3 jours, les auditeurs, ils alternent entre des conférences, des débats, des exercices pratiques. Mmh. Et l'idée, c'est pas seulement de former des élus, des militants politiques, on forme surtout des citoyens engagés, capables de prendre des responsabilités dans la société. Et c'est vrai que on est assez fiers, parce que parmi nos auditeurs, on compte vraiment des profils qui sont déjà bien établis ou des beaux profils en devenir. Donc c'est vrai que c'est une vraie fierté pour nous à l'IFP.
Alors justement, vous parliez de profil. Est-ce qu'il y a besoin de faire des études pour rentrer? Est-ce que vous demandez un niveau de bac plus 2? Est-ce que type de profession, de formation? Émilie.
Alors non, on n'a pas besoin d'avoir fait de grandes études particulièrement pour intégrer pour faire suivre un séminaire à l'IFP. Ce qu'on cherche, c'est des jeunes engagés. Donc, dans les auditeurs, ce sont ceux qui ont suivi un séminaire à l'IFP. On les appelle comme ça, les auditeurs de l'IFP. On a autant du jeune étudiant en licence de droit à SAS que un agriculteur. Mais là où ils se retrouvent, c'est que ce sont des grands amoureux de la France, de leur pays, et qui souhaitent s'engager ou sont déjà engagés. En fait, on va plus jauger le niveau d'engagement de quelqu'un que son niveau d'études. Après, des gens qui ont fait Sciences Po Paris ou une grande école de commerce sont toujours appréciés parce que c'est des gens qui ont une capacité à structurer des projets. Mais en fait, on se rend compte qu'on a aussi besoin de militants de terrain. On a aussi besoin de personnes qui sont très ancrées à l'échelle locale, qui n'ont pas forcément besoin d'avoir fait des grandes études pour cet engagement-là. Et c'est ça, en fait, qui est très, très agréable à l'IFP aussi, c'est la diversité des profils. On n'a pas juste une sociologie à l'IFP, on n'a pas juste un type de profil, on en a plein. Et en fait, les auditeurs ressortent très enrichis de ça, ils sont ravis d'avoir rencontré des personnes extrêmement engagées, mais avec parcours complètement différents.
Donc, si j'ai bien compris, parisien comme provincial,
exactement.
Nous sommes d'accord. Si je suis provincial, je prends en charge une partie de mon transport. Parce que là, on va être concret pour nos auditeurs.
Oui.
Parce que c'est important d'être concret. On est sur les idées, on est concret. Et ensuite, donc, je reste 2 jours à l'IFP. J'arrive le vendredi soir. Je repars le dimanche soir.
Exactement.
Et pendant 2 jours et quelques, j'ai ma formation avec d'autres auditeurs que je ne connais point et avec qui je forme une camaraderie, j'imagine.
Exactement.
C'est ça.
Il y a tout ce qu'il faut pour former une camaraderie. Parce qu'on organise... Enfin, dès qu'ils arrivent, ils ont accès à un cocktail. Donc moi, mon travail d'ailleurs, c'est de les présenter, de les mettre à l'aise, enfin même le travail de toute l'équipe. Donc on est toujours ravis le vendredi de les voir arriver. Certains, on les a eu au téléphone, on a échangé par mail avec eux. Et donc là, voilà, on les voit en vrai pour certains pour la première fois. Donc on aime bien savoir d'où ils viennent, quels sont leurs engagements. Et là, ça brise la glace. Donc pour les grands timides, ne vous inquiétez pas, vous allez être très à l'aise très rapidement. Tout est fait pour ça. Ensuite, donc, ils enchaînent sur des conférences et ensuite le dîner. Et le dîner, c'est vraiment un moment convivial. Les gens sont assis, dînent ensemble, échangent avec l'intervenant si l'intervenant reste. Et donc, les auditeurs créent des liens très forts tout le week-end parce qu'ils ont les repas ensemble, les pauses ensemble, les interventions, les conférences ensemble. Donc, à la suite de ça, on a souvent de très, très bonnes amitiés qui se créent.
Alors, donnez-moi une idée de conférence. Sans en donner particulièrement l'intervenant, des idées de conférences qu'on peut retrouver sur le site d'ailleurs pour les prochains programmes, par exemple.
Eh bien, on a des conférences en tout genre. On a des conférences sur l'économie, notamment parfois enseignées par Charles Gave. On a des conférences sur la géopolitique, par exemple, avec Alexandre Delval. On a des leçons sur le journalisme, par exemple, aussi, avec Christine Kelly ou Gabriel Cluzel qui viennent. On a une diversité, je pourrais même pas tous les citer, mais en fait c'est ça qui fait aussi la force de l'IFP, c'est qu'on a genre énormément de, 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 d'interventions différentes, de thématiques différentes abordées. Et c'est vrai aussi qu'il y en a qui pourraient se dire « Oui, mais moi, j'ai fait une école de sciences politiques, qu'est-ce que je vais venir apprendre à l'IFP ?» Et en fait, justement, l'IFP, la force, c'est que justement, on n'apprend pas simplement la même chose que vous allez avoir à sciences politiques, à Sciences Po, pardon. On prend un peu de hauteur et on donne aussi des courants de pensée qui ne sont pas forcément toujours enseignés. Évidemment, ce n'est pas de l'idéologie, le but étant pas de en étant auditeur de l'IFP, de ressortir en se disant « Bon, bah, maintenant, je dois passer, penser comme ça. » Évidemment que non. Mmh. Mais plutôt d'ouvrir et d'élargir l'esprit pour que les auditeurs puissent eux-mêmes avoir leur propre courant de pensée et structurer eux-mêmes leurs convictions, parce que c'est pas noir ou blanc, ça peut être...
Donc j'ai vu qu'il y avait séminaire 1, séminaire 2, séminaire 3. Alors, est-ce que vous pouvez préciser pour nos auditeurs la différence entre les trois ?
Alors, le séminaire de niveau 1, de toute façon, c'est vraiment la porte d'entrée à l'IFP. Donc, le séminaire de niveau 1, c'est beaucoup plus classique, c'est-à-dire que pendant le séminaire, c'est beaucoup de cours théoriques sur des sujets assez vastes, comme je les évoquais juste avant, l'économie, la géopolitique, les enjeux sociétaux, etc. Il y a aussi évidemment un peu d'exercices pratiques comme des débats, des échanges entre les auditeurs. On a par exemple notre module phare qui s'appelle le 2 minutes pour convaincre. Donc tous les auditeurs prennent la place de l'intervenant et chacun 2 minutes viennent au pupitre et essayent
de... Alors qu'est-ce qu'il fait pendant 2 minutes ?
Eh bien, ils doivent défendre une idée, une conviction qui leur est chère, et le but étant de convaincre tout l'auditoire.
Ah, super exercice. Super exercice oratoire.
Exactement, et le but étant de convaincre tout l'auditoire que leur idée est la meilleure. Donc voilà, ça c'est un bon exercice qui est autant apprécié que redouté.
Donc ça c'est le 1.
Exactement. Le séminaire de niveau 2, lui, est un peu plus axé sur le journalisme. C'est-à-dire qu'on a une initiation au media training, mais on a aussi des cours sur la levée de fonds, comment mener une stratégie de campagne, etc.
Donc on est plus dans le concret que dans les idées.
Exactement, et notamment pendant le séminaire de niveau 2, on a une initiation à l'autodéfense. Et là-dessus, c'est vrai qu'il s'est passé une histoire assez forte. Je pense que vous voyez tous qui est Henri d'Anselme, le héros au sac à dos.
Oui, alors vous pouvez rappeler à nos auditeurs, hein, c'est important ce qui s'est passé.
Eh bien, il y a quelques années de ça, une attaque à Annecy, et un jeune homme courageux a pris son sac à dos et a frappé l'assaillant pour justement essayer de défendre une famille, des enfants, etc. Et donc, ce jeune homme, ce Henri d'Anselme, était auditeur de l'IFP, avait fait son séminaire de niveau 2 à l'IFP quelques semaines auparavant. Et c'est entre autres aussi grâce à ce qu'il a appris pendant notre séminaire et pendant ce cours qu'il a pu sauver des vies.
Et Henri d'Anselme qui d'ailleurs après a fait un tour des cathédrales.
Exactement.
C'est ça, absolument. Et donc il faut avoir fait le 1 pour faire le 2.
Et après pour faire le 3, il faut avoir fait le 2. Et alors, le séminaire de niveau 3 lui est vraiment, vraiment axé principalement sur le journalisme, sur la prise de parole médiatique. C'est-à-dire que ce n'est pas pour se destiner au travail de journaliste, mais simplement pour pouvoir défendre ses convictions dans la sphère médiatique. Donc voilà, là, c'est vraiment, ça enchaîne les médias training, que ce soit les exercices radio, les exercices TV, etc.
C'est bon, super. Vous avez un mot à rajouter, Léline ?
Oui, donc le séminaire niveau 2, on s'attend à ce que les jeunes aient un engagement concret. Donc il est un petit peu plus sélectif que le séminaire niveau 1, et c'est le cas aussi pour le séminaire niveau 3. Donc on monte en engagement d'un séminaire à un autre, et donc il y a une montée en puissance, voilà.
Alors, je rappelle à nos chers auditeurs que nous sommes avec Justine Durand et Lénaïque Bobin, qui sont d'actives salariées à l'Institut de formation politique. Donc, Justine est responsable des formations et de la communication. Lénaïque Bobin est responsable du réseau de l'Institut de formation politique. Je les accueille aujourd'hui pour parler de l'Institut de formation politique que vous pourrez retrouver sur ifpfrance.org. Donc, pardon, Lénaïque, je faisais un petit rappel à nos auditeurs qui arrivent peut-être pendant l'émission.
Avec grand plaisir. Et donc, tout le monde n'est pas obligé de faire le séminaire niveau 2 ou niveau 3. Il y a aussi des séminaires thématiques.
Alors, parlez-nous-en, absolument.
Donc, alors, Justine pourra compléter, mais on fait des séminaires donc thématiques. Donc, il y a droit, géopolitique,
histoire de France
et des séminaires donc économie et des séminaires aussi pour plus professionnalisants. Pour former de futurs collaborateurs d'élus. Donc ça va être autant des collaborateurs parlementaires que des collaborateurs d'élus locaux. Donc c'est des séminaires qui sont extrêmement appréciés en fonction déjà du parcours d'études ou du parcours professionnel et qui permettent de se faire un réseau aussi par rapport à la thématique. Donc pour un étudiant en droit, l'avantage c'est qu'il va pouvoir rencontrer des avocats, des juristes et faire une demande de stage potentiellement, avoir des conseils. Et ça, c'est vraiment la force de l'IFP, c'est qu'on n'est pas juste un institut de formation, on propose aussi un réseau qui est extrêmement efficace pour trouver du travail, pour avoir des conseils pour monter son association, pour être soutenu sur le plan médiatique. Donc voilà, il y a une vraie force de frappe du réseau.
Alors, vous avez raison de parler du réseau parce que souvent on pose la question, c'est un peu comme la fac, ils sont formés puis après ils partent dans la nature, on ne sait pas ce qu'ils deviennent, donc on fait de la formation pour faire de la formation. En fait, non, c'est bien ça, j'ai bien compris.
Évidemment que non, mais je pense que l'ENAIC, la responsable du réseau, sera...
Donc le réseau. Alors poursuivez sur le réseau, comment ça se passe avec le réseau?
Alors le réseau, une fois qu'on a...
Si je suis en province déjà, oui. Ou si je suis à Paris, si oui. J'ai fait que le 1 ou si j'ai fait le 1 et le 2...
Oui. Donc, une fois qu'on a suivi le séminaire de niveau 1 ou un séminaire thématique, on appartient au réseau des auditeurs de l'IFP. Donc là, on a un réseau, on a plus de 4000 personnes qui ont suivi un séminaire à l'IFP, donc on a un réseau de plus de 4000 auditeurs, sachant aussi qu'on a le réseau des intervenants, donc on a 400-500 intervenants dans ce réseau-là. Moi, mon travail, c'est, et ceux qui s'occupent du réseau à l'IFP, c'est de faire des mises en relation, donc autant pour trouver du travail... que pour avoir des conseils, donc pour structurer une association si on a envie de monter une association. Et ensuite, on a créé des groupes de conversation en fonction des régions. Donc les gens peuvent se retrouver grâce à ces groupes de conversation. Et aussi, on s'est développé récemment et on organise des conférences ou des apéros en région. Donc là, récemment, on en a fait un dans l'Oise. C'était dans un lieu magnifique... Une dame nous a accueillis, nous a prêté son château. On a eu beaucoup, beaucoup de chance. C'est la première fois que ça nous arrivait dans nos apéros en région. Et on a eu une cinquantaine de personnes qui sont venues donc découvrir l'IFP pour ceux qui ne connaissaient pas ou pour ceux qui étaient auditeurs, revoir d'anciens auditeurs qui sont dans leur région. Et en fait, il y a toujours de beaux projets qui naissent grâce à ça. Et on ne pense pas assez en fait, au réseau. Je pense... Dans certains de nos milieux ou en politique. En politique, si, mais on ne pense pas assez à faire appel au réseau pour monter des projets.
Alors, vous avez tout à fait raison, et d'autant plus que ce n'est pas qu'une formation aux idées, pas qu'une formation aux techniques, c'est une formation à l'action, c'est-à-dire comment, si j'ai bien compris, je développe mon journal, je crée mon association, je rentre dans un syndicat étudiant... qui va lutter contre un autre syndicat, etc. etc. C'est bien ça, Lénaï ?
Exactement.
Donc, on va avoir une sorte de recette ?
Alors, on peut avoir une recette. Après, on peut guider. Mais les gens peuvent avoir leurs pattes aussi, avoir leurs projets. Donc, on va les guider. Mais c'est eux qui concrétisent aussi le projet. On accompagne. Vraiment, l'IFP a un rôle d'accompagnateur. Et oui, donc, on a tout type d'initiatives qui ont été faites, certaines pour développer le Made in France, donc d'autres pour développer le rayonnement du patrimoine.
Alors, est-ce que vous avez quelques exemples d'auditeurs qui ont monté des actions qui sont aujourd'hui connues, illustres, et que nos auditeurs peuvent, Radio Courtoisie, connaissent pour qu'on comprenne que ça vient de l'IFP ?
Oui, c'est vrai qu'on est assez fiers de ça. C'est
Par
vrai
exemple.
Qu'on a énormément d'auditeurs qui ont fait de grandes choses, je pense.
Alors allez-y, parce que là, on va être concret.
Je pense notamment à Pierre-Marie Sèvre, qui était aujourd'hui à la tête de l'Institut pour la Justice. Je pense aussi, par exemple, à Claire Géronimi, qui chaque jour vient en soutien aux femmes victimes de violences et d'agressions. Je pense notamment aussi à Benoît Perrin, qui fait bouger les lignes quotidiennement pour aider sur les
contribuables.
Pour contribuables associés. Enfin voilà, on a énormément de personnes qui ont fait de grandes choses. On a aussi beaucoup de journalistes, je pense notamment à Charlotte Dornella. On a Hélène Rouet, par exemple, qui est aussi en train de monter grandement dans les médias. Félix Perrola aussi, qui est journaliste chez CNews. Donc on a vraiment une diversité de profils, et c'est ça qui est super intéressant à l'IFP, c'est qu'ils ne rentrent pas dans un moule où ils doivent tous sortir en faisant la même chose à la fin. Il y a une diversité de profils et de parcours par la suite, et ça, c'est vraiment très fort.
Alors vous l'aurez compris, chers auditeurs, non seulement, effectivement, il y a un réseau, mais surtout, être de droite, ce n'est pas un gros mot.
Non. Hein.
Et quand on arrive, on peut dire ce qu'on pense. On n'est pas taxé de tel ou tel nom comme certaines facs. Moi, j'ai fait la fac. On a peur de dire qu'on est de droite. On a peur de dire qu'on a fait la manif pour tous, etc., etc. Ce qui est à 20 ans, 22 ans, pas très facile. Et là, on arrive dans une famille. Hein. On arrive dans une famille le vendredi soir.
Exactement. Non, mais on a beaucoup d'auditeurs d'ailleurs qui deviennent de droite parce qu'ils ont découvert que dans les universités, on ne pouvait pas dire ce qu'on voulait. Et ils se sont rendus compte qu'il n'y avait que certains milieux qui acceptaient le vrai débat. Donc à l'IFP, on pousse d'ailleurs à ce type de débat. On a vraiment plein de tendances et de couleurs politiques différentes. C'est ça qui fait le charme d'ailleurs des séminaires. Et il y a des, pendant le séminaire, des sessions de débat, de joutes oratoires. Donc ils sont encadrés et l'idée c'est l'un défend la négative, l'autre la positive de, d'un sujet. Les auditeurs apprécient ça, certains se découvrent de vrais talents. Parfois les plus timides se rendent compte qu'en fait ils sont très à l'aise dans ce genre d'exercice. Donc c'est ça qui est très sympathique dans nos séminaires, c'est pas juste des séminaires théoriques, on arrive, on est derrière un bureau et on doit... gratter oui, sur
pas,
un
c'est
papier.
Pas, c'est pas un cours de fac, je dis ça à nos chers auditeurs de Radio Courtoisie, c'est pas un cours de fac, on arrive avec son ordi, on note pendant une heure et on repart chez soi. C'est pas du tout ça.
Non, au c'est pas du tout ça.
Justement, parce que, enfin, justement, je pense qu'on en viendrait de toute façon après, mais l'IFP fonctionne de façon 100% indépendante, c'est-à-dire qu'on ne touche aucun argent public.
Vous avez raison de le dire. Ouais. J'allais vous poser la question tout à l'heure, mais allez-y.
Eh bien, l'IFP fonctionne uniquement grâce à nos mécènes et à nos donateurs. D'ailleurs, si certains d'entre nous sont en train de nous écouter, je tiens à les remercier très sincèrement, parce que c'est grâce à eux que l'IFP fonctionne depuis maintenant plus de 20 ans et que plus de 4000 jeunes engagés ont pu se former à l'IFP. Donc, un grand merci à eux. Et donc, oui, donc on a eu quand même un devoir moral vis-à-vis de nos donateurs, c'est-à-dire qu'il est hors de question pour nous que nos auditeurs rentrent le dimanche soir en se disant « c'est cool, j'ai passé un bon week-end, j'ai appris plein de trucs, mais je vais rien en faire ». Le but, et nous on pousse forcément nos auditeurs à ça, c'est à s'engager et à prendre des responsabilités de quelque manière qu'ils soient, mais le but étant que ça ne s'arrête pas à un week-end, et voilà.
Effectivement, chers auditeurs, vous l'aurez compris, non seulement c'est pas un simple cours de fac avec un ordinateur, mais ensuite il y a un suivi, il y a une camaraderie, il y a un parcours. En fait, c'est une famille.
C'est ça, et on organise aussi des soirées de réseau où les jeunes se retrouvent. Et les lundis de l'IFP aussi, qui ont beaucoup de succès. Donc les soirées de réseau, ça va être encore une fois par rapport à des thématiques. Donc on a organisé récemment une soirée de réseau éducation, enseignement, recherche. Donc on avait beaucoup de professeurs, des chercheurs. Et en fait, c'est souvent des gens qui sont un peu isolés dans leurs universités ou dans leur fac, et ils sont contents de pouvoir se retrouver et de parler de problématiques qu'ils rencontrent sur le terrain. Et ensuite, nous, on les laisse voir s'ils veulent créer des projets ensemble. On a aussi organisé une soirée réseau des femmes parce qu'on se rend compte que les femmes sont moins engagées que les hommes dans le milieu politique ou de l'engagement associatif. C'est à peu près un tiers de femmes pour deux tiers d'hommes. Et donc, mesdames, n'hésitez pas à vous engager, à venir à l'IFP
mesdames,
si vous
je
avez...
je le redis aussi, n'hésitez pas à vous engager. Donc, je le dis à nos parents auditeurs pour leurs enfants, mais peut-être qu'il y a des jeunes filles qui nous écoutent.
Oui. Et vraiment, vous avez votre place dans ces milieux-là, et surtout à l'IFP d'ailleurs, parce qu'on fait tout pour vous mettre bien à l'aise. Et en fait, tout est fait pour que vous ressortiez vraiment heureux et avoir envie de vous battre pour votre pays après un week-end comme ça.
Absolument, absolument. Alors, il y a d'autres offres, d'autres formations. On m'a parlé de, pardon, de l'ILDJ. Est-ce que vous pouvez dire un mot sur l'ILDJ ? Qu'est-ce que signifie ILDJ ?
L'ILDJ, c'est donc une des écoles qui a été initiée par l'IFP également. Donc, c'est l'Institut libre de journalisme. Donc, l'ILDJ a pour vocation à former les personnes qui souhaitent exercer dans le journalisme et qui n'ont pas forcément fait des études de journalisme. Donc, ça se passe sous forme de week-end, 6 week-ends dans l'année.
Donc, 6 week-ends dans l'année.
Exactement, pendant lesquels ils apprennent la presse écrite, les médias, la radio, voilà. Et donc, le but étant donc, de les initier au métier de journaliste. Et c'est vrai qu'il y a énormément de grands journalistes qui sont passés par l'ILDJ. Enfin, je vais répéter certains noms que j'ai donnés tout à l'heure.
Mais
je pense notamment,
important.
Par exemple, à Maïlys Cluzel, que vous devez probablement bien connaître ici à Radio Courtoisie. Baïa Carla Stendhal aussi. Et d'autres profils qui sont partis, par exemple, chez CNews, où je disais juste avant, Félix Perrolaz, Noémie Hardy. Voilà.
On a Liselotte aussi qui Liselotte a fait un séminaire à l'IFP.
Liselotte qui a fait un séminaire ILDJ à l'IFP. ILDJ ou...
Non, alors, IFP, c'est sûr. Probablement ILDJ.
ILDJ. Donc là, donc vous me disiez en 6 séances.
Exactement.
Alors, comment on y rentre ?
Il faut tout simplement candidater sur le site internet de l'ILDJ.
Donc, l'engagement, la motivation, le pourquoi,
exactement,
etc. Et ensuite, vous rentrez dans un groupe d'une combien de personnes, à peu près ?
Alors, ils sont une petite quinzaine.
Une petite quinzaine, et vous suivez ça pendant un an.
Exactement.
C'est ça ?
Pendant 6 week-ends.
6 week-ends. Donc, c'est une offre qui n'a rien à voir avec le séminaire, mais qui se goupille avec le séminaire, on va dire ça pour l'IFP. Et il y a aussi l'école de l'engagement. J'ai vu ça.
L'école de l'engagement politique. Donc, ça, c'est moi qui m'en occupe. C'est pour former de futurs collaborateurs parlementaires ou de futurs collaborateurs d'élus locaux.
Alors, expliquez la différence.
Oui, alors les collaborateurs parlementaires, ce sont ceux qui vont travailler pour un député ou un sénateur. Et les collaborateurs d'élus locaux, souvent, sont ceux qui vont travailler pour des maires ou voilà, des représentants de collectivités.
Alors, sachant que je vous interromps, le collaborateur parlementaire peut être à l'Assemblée nationale ou en province.
Exactement.
Donc, il en a en général deux.
Oui.
Pardon, je vous ai interrompu.
Non, mais c'est ça, il peut en avoir... souvent, il a une équipe de collaborateurs parlementaires, donc un à l'Assemblée nationale et un qui est local, donc rattaché à la circonscription. Et donc, on a 130 auditeurs IFP qui sont collaborateurs parlementaires. Donc, ce qui est assez intéressant, c'est que ce sont nos propres auditeurs qui viennent former de futurs jeunes collaborateurs parlementaires. Donc ensuite, ils arrivent, une fois que voilà, ils ont été embauchés, ils arrivent à l'Assemblée nationale, ils connaissent déjà des collaborateurs parlementaires grâce au réseau de l'IFP. Et pour les collaborateurs d'élus locaux, vu qu'on a beaucoup d'auditeurs qui sont maires ou qui sont adjoints ou conseillers municipaux...
Il y a un réseau.
Exactement.
Donc, ce qui signifie qu'on a d'anciens auditeurs qui sont devenus élus, et ces élus-là cherchent à nouveau des collaborateurs, que vous allez les... c'est ça?
C'est ça.
J'ai bien compris, Lénaïque.
C'est un cercle vertueux.
Un cercle vertueux, c'est un réseau.
Exactement.
On revient à la famille.
C'est ça.
Donc, l'ILDJ, l'école de l'engagement, les lundis de l'IFP. Alors, dites un mot sur les lundis de l'IFP. Les thématiques, comment ça se passe?
Alors, les lundis de l'IFP, c'est des événements qui sont réservés uniquement à nos auditeurs. Donc, si vous voyez sur nos réseaux sociaux des lundis de l'IFP qui vous intéressent, il faut d'abord faire un séminaire de niveau.
C'est très bien de le dire.
Donc, en fait, voilà, là, on reçoit donc des intervenants, des écrivains, des journalistes, des personnes, des entrepreneurs, voilà, qui viennent nous présenter régulièrement, c'est plutôt un ouvrage, ou qui ont une actualité. Donc, le but étant de les recevoir et de permettre à nos auditeurs d'échanger en comité réduit avec eux et pouvoir poser toutes leurs questions.
D'accord.
C'est pareil, un moment de réseau aussi, où il y a un cocktail après la conférence.
Important, le cocktail.
Extrêmement important, le cocktail.
Pour pouvoir parler,
déjà,
échanger.
Vous ressortez, normalement, vous n'avez plus faim. Donc ça, il faut le préciser. Et c'est un moment d'échange aussi. On a l'avantage d'avoir des conférenciers qui aiment beaucoup l'IFP et qui restent assez longtemps pendant le cocktail pour échanger aussi en tête-à-tête avec nos auditeurs. Donc c'est un moment pour revoir d'anciens auditeurs, pour voir l'équipe de l'IFP aussi, si nous, on peut vous aider. Donc ce sont des moments très appréciés et là on a une grosse soirée qui se profile aussi, une autre soirée de réseau, c'est la soirée annuelle,
qui a lieu le lundi prochain, le 1er juin,
mais qui s'adresse uniquement
aux auditeurs,
donc je le dis, donc il faut être auditeur
et ce serait bien de l'être parce qu'on a des super invités qui viennent.
Voilà. Et ça tourne donc aujourd'hui sur, j'ai vu ça sur le site évidemment, Facebook,
Instagram, TikTok,
c'est ça, tous les réseaux.
On est multicanal.
Donc vous êtes multicanal, multicanaux.
Multicanaux, oui.
Multicanaux, donc l'IFP est multicanaux. Et donc là sont annoncés tous les événements, et notamment lundi prochain, donc l'événement annuel pour les auditeurs. Alors j'ai vu qu'il y avait des prix.
Oui.
Alors dites-nous sur le site.
Tous les ans, à la soirée annuelle, on récompense nos auditeurs qui ont accompli de grandes choses pendant l'année, notamment, par exemple, le prix de l'action pour quelqu'un qui a réalisé une action assez marquante, le prix de la communication pour quelqu'un qui a réalisé une grande campagne de communication, le prix de l'analyse, notamment, par exemple, pour quelqu'un qui a sorti une revue, un ouvrage, une tribune, enfin qui a fait bouger les choses via son esprit analytique. Et aussi on a le prix, par exemple, on lance par exemple cette année le prix du couple engagé, parce que c'est vrai qu'aussi à l'IFP on est assez attaché aux valeurs de la famille, donc c'est vrai qu'on aime aussi pouvoir récompenser ces personnes qui s'engagent. On a d'autres prix, on a par exemple nos meilleurs intervenants qui sont récompensés, on a le prix de la révélation médiatique pour par exemple un jeune qui
Alors, est-ce que vous avez trois prix en tête là qui ont été...
Je peux pas les donner.
Alors
pour cette année.
On peut parler des années précédentes. On peut parler des années précédentes, mais typiquement, on a eu Nicolas Pouvreau de l'OID. Oui.
Nicolas Pouvreau qui est venu ici, que j'ai invité pour l'Observatoire.
Oui, et je crois qu'il a eu le prix de l'analyse. Arnaud Rérol qui travaille chez Périclès aussi, pour le prix de...
Le prix spécial du jury.
Alice Cordier avait eu un prix aussi, prix de l'action.
Oui.
Donc on peut pas annoncer
en tout cas
Lislotte
aussi, qui a eu le prix de la révélation médiatique l'année dernière.
Exactement. Et alors aussi, pour revenir sur ce que disait Justine par rapport au prix des intervenants, il faut savoir que les intervenants sont notés lors des séminaires. Mmh. Donc ils sont notés de 0 à 10. Et ce qui fait que ça nous maintient un niveau d'excellence lors de nos séminaires, c'est qu'on ne prend que les intervenants extrêmement bien notés. Voilà, bon. Je me permettais cette précision.
Vous avez raison. Donc on était sur les prix. Alors il y a deux remarques qui reviennent souvent, moi dans mon milieu, mais aussi par l'intermédiaire de personnes que je connais qui m'en parlent. C'est concernant l'IFP, deux choses importantes, c'est sa relation au parti politique. Et donc est-ce que l'IFP est un parti ? Est-ce que l'IFP est attaché à un courant quelconque ? Ça, c'est la première chose. Si on peut donner des éléments de clarification pour nos auditeurs. Et la deuxième chose, vous en avez parlé, mais à mon avis, il faut le redire. On regarde comment vit l'IFP et son indépendance financière. Est-ce que vous, qui répond sur le premier point et sur le deuxième ?
Je commence et puis tu complètes. Alors, l'IFP ne défend et n'est l'antichambre d'aucun parti politique. Ça, il faut vraiment le comprendre. Alors après, on peut avoir des séminaires où il y a peut-être plus de militants de tel groupe ou autre, mais non, on défend aucun parti politique.
On n'est pas partisan.
Voilà, c'est ça.
Vous n'êtes pas partisan, vous n'êtes pas affilié à un quelconque parti politique, comme vous le disiez, le antichambre de, etc.
Exactement.
Indépendant politiquement, voilà. Ce qui est indiqué sur le site internet.
Oui, voilà, exactement. Et ça se voit d'ailleurs par rapport à la pluralité des tendances qu'on a lors de nos séminaires, ça se verrait, ça se saurait si on était l'antichambre d'un parti. Voilà. Ensuite, par rapport à nos donateurs, Justine, tu veux compléter ?
Oui, ouais. Mais comme je le disais juste avant, c'est vrai qu'on ne touche aucun argent public, on est 100% indépendant parce qu'on part d'un principe assez simple, c'est qu'on souhaite que les Français puissent financer les projets qu'ils portent.
Très important.
À cœur. Donc voilà, on est totalement indépendant, on vit uniquement grâce à la générosité de nos donateurs et de nos mécènes. Donc je répète, si certains nous écoutent, je les remercie. Qui peuvent déduire, évidemment, nos dons sont défiscalisés, donc ce qui permet de faciliter le mouvement. Mais c'est vrai que donc la force de l'IFP, justement, c'est son indépendance qui fait qu'on est totalement libre dans tous nos choix et on ne dépend pas de l'État sur quoi que ce soit. Donc voilà, ça c'est une vraie force, mais donc aussi c'est un engagement qu'on doit tenir vis-à-vis de nos donateurs sur l'exigence et le retour sur investissement qu'on aura derrière sur nos auditeurs.
Alors comment justement, je m'adresse aux donateurs, comment est-ce que vous tenez au courant les donateurs ? Vous leur demandez s'ils peuvent vous aider ? Et après, quel est le suivi ? Comment ça se passe ? Que le donateur est informé de l'activité, de ce qui se passe ? Comment est-ce qu'il va vivre finalement son don ?
Tout à fait.
Parce que ça, c'est important.
Ils reçoivent régulièrement des lettres d'information sur les activités de l'IFP, les événements marquants et les choses qu'ont fait nos auditeurs. On organise aussi des petits déjeuners, par exemple, donateurs autour d'une personnalité où ils ont l'occasion du coup de pouvoir échanger avec des personnalités de renom. Il y a aussi le goûter des donateurs où du coup on regroupe tous nos donateurs autour d'un petit goûter assez informel mais juste sympathique. On a aussi une grande soirée avec nos grands mécènes. On a beaucoup de choses pour fidéliser et remercier nos donateurs. Et puis évidemment aussi à chaque séminaire, c'est vrai, c'est important de le dire, mais chaque séminaire, nos auditeurs remplissent une sorte de petite carte, une petite carte qu'on envoie après derrière à certains de nos donateurs pour les remercier, pour leur dire à quel point le séminaire a été utile à nos auditeurs et à quel point ils ont apprécié ce séminaire et les remercier.
Alors justement, vous avez bien raison de parler de ça, parce qu'à propos notamment du prix du séminaire. Donc le prix du séminaire, rappelez-le,
50 euros compris.
Donc un auditeur qui vient à un séminaire paye 50 euros. On lui paye une partie de ses frais de transport s'il vient de province.
On peut le loger.
On peut le loger également, donc ça fait partie de 50 euros.
Exactement.
Il est nourri, ça fait partie de 50 euros. Donc j'imagine bien que le coût réel, vous n'avez pas besoin de me le dire, mais le coût réel n'est pas de 50 euros.
Bon. Évidemment.
Alors donc, du coup, je vais poser deux questions. La première, c'est pourquoi est-ce qu'il paye 50 euros ? Moi, j'ai ma petite idée. J'imagine que c'est pour le responsabiliser, pour pas que ça soit... Parce qu'on n'aime pas trop le gratuit, quand même. C'est comme la radio courtoisie. Allez-y.
C'est aussi pour responsabiliser un petit peu, pour pas que les personnes se disent « Bon, bah super, je vais venir à Paris, je vais passer un week-end à Paris, et puis finalement, ne viennent pas à la formation. » Donc, c'est vraiment une participation assez...
Pour qu'on mette la main à la pâte.
Exactement, et puis pour contribuer un petit peu à l'IFP. Mais c'est vrai aussi qu'on a pas mal de nos auditeurs qui ont fait des séminaires et qui, après, derrière, ont décidé, à leur tour, de soutenir l'IFP et de faire des dons à l'IFP. Donc ça, c'est quelque chose qu'on qu'on apprécie beaucoup parce que je pense qu'il y a beaucoup de manières de soutenir l'IFP. Il y a évidemment le biais financier, mais il y a aussi, par exemple, recommander des gens pour venir faire nos séminaires. C'est vrai qu'on en a beaucoup qui viennent parce qu'ils en ont entendu parler par leurs parents, leurs grands-parents, leurs professeurs, leurs amis. Donc ça, c'est aussi une façon d'aider l'IFP. On est aussi toujours à la recherche, par exemple, de nouveaux intervenants qualifiés. Et après, voilà, c'est le don financier aussi qui est...
Je trouve que c'est très responsabilisant dans la mesure où on est quand même dans un pays où on parle de gratuité toute la journée, où il faut donner sans recevoir. Et on a tendance à penser que, on peut prendre, vous savez, la fameuse phrase de Land, on peut payer, c'est gratuit. C'est pas cher, c'est gratuit. Mais en fait, ça n'existe pas, le mot gratuit. C'est quelqu'un qui paye au bout, mais on ne sait pas qui c'est. Donc, ça signifie que ça responsabilise quelqu'un de comprendre qu'il y a un coût. Et pour le donateur, évidemment, ça ne coûte pas 50 euros. Donc, il faut bien un delta à financer. C'est bien ce que vous dites, Justine.
Exactement.
Donc, le delta, c'est le donateur, hein, c'est bien ça. Et donc, 50 euros plus le delta du donateur égale donc, le coût du séminaire pour un auditeur.
Exactement.
Donc, j'espère que vous allez vous inscrire parce que c'est important. Il y a plein de séminaires toute l'année, j'ai vu. Il y en a tout combien par an de séminaires niveau 1
hein? Oula, une quinzaine. On en a au moins 12.
Une quinzaine.
Et
après, on a des séminaires aussi thématiques.
Alors, séminaires niveau 1.
Une quinzaine.
Donc, ça, nos auditeurs. Donc, plus d'un par mois. Ça veut dire vous en avez loupé
toutes
un.
Les trois semaines.
Ouais, voilà. Toutes les trois semaines, il y a un séminaire niveau 1 à Paris, dans le 16e.
Exactement.
Pour l'auditeur qui est en province, comme on l'a dit, on peut prendre en charge une partie de ses frais de transport. Il est logé, nourri. Il passe deux jours extraordinaires en famille avec l'IFP et avec vous. Et ensuite, séminaire niveau 2, il y en a combien par an ?
5.
5.
Deux séminaires de niveau 3. Séminaire thématique, c'est
5-6.
Exactement.
Oui.
Et après, on a des séminaires lycéens dont on n'a pas encore parlé.
Vous avez raison. Parlez des séminaires lycéens, pardon.
Eh bien, du coup, justement, on organise donc des séminaires lycéens adressés aux 15 à 18 ans. Le prochain, d'ailleurs, aura lieu du 4 au 5 juillet prochain. Donc ne tardez pas à vous.
18 ans, 4-5 juillet. Alors, 15 ans, c'est 3e, c'est ça ?
Non, seconde.
C'est seconde.
Seconde à la terminale.
Seconde, première, terminale.
Exactement.
Alors, là, il va falloir que on s'adresse plus aux parents.
Exactement.
Puisqu'ils sont mineurs, c'est ça ?
Tout à fait. Donc, justement, si des parents de lycéens nous écoutent, n'hésitez pas à envoyer vos enfants pour venir faire un séminaire lycéen. C'est une très belle occasion pour eux de commencer à se former à l'engagement politique. Parce que c'est vrai que quand on arrive dans les universités, on est souvent face à une offensive de gauche assez violente et virulente.
Oui.
Donc, c'est vrai qu'il est toujours bien de leur avoir permis de penser librement et de réfléchir par eux-mêmes avant de se faire gangréner dans les universités.
Alors, qu'est-ce qui se passe dans les universités pour pouvoir effectivement informer nos chers lycéens avant qu'ils ne rentrent dans l'université, justement ?
Eh bien, qu'il y a un séminaire lycéen du 4 au 5 juillet.
Non, ce que je veux dire, c'est que les universités sont quand même assez investies par la gauche, qui est beaucoup plus combattante en général.
Mais souvent. Heureusement, on a de valeureux auditeurs de l'IFP qui sont aussi dans les universités pour montrer qu'ils ne sont pas tout seuls.
Alors, déjà, la gauche est souvent majoritaire, et deux, elle n'a pas peur.
Oui.
Voilà, alors que nous, on a un peu ce petit complexe.
C'est ça.
Et puis, on se sent seul. Donc, c'est ce que me disaient certains auditeurs de l'IFP. En arrivant à l'IFP, le vendredi soir, à la première gorgée de boissons qu'on m'offre et en échangeant, je me dis, je ne suis pas seul.
C'est
bien ça ? Souvent, ce que j'entends.
Ça permet, le séminaire permet de rencontrer aussi des représentants d'associations étudiantes où ils vont pouvoir rejoindre une association.
Par exemple,
alors, il y a l'UNI et la Cocarde. En rencontrant les représentants de l'UNI ou de la Cocarde, ils peuvent rencontrer d'autres jeunes de droite qui sont dans leurs universités. Donc c'est assez intéressant aussi pour avoir un contact dès le départ de sa vie étudiante. Voilà. Pas être isolé. C'est très important.
Et pour la province, donc du coup, vous parliez de la province tout à l'heure, au regard des provinciaux. Donc, vous me dites qu'il y a des groupes pour les provinciaux, c'est ça ?
Tout à fait.
Des groupes de conversation peuvent en fait s'identifier, se rencontrer, organiser des activités entre eux.
Donc ça, c'est pour les anciens auditeurs ?
C'est pour les anciens auditeurs, exactement.
Donc, ils repartent en province, leurs activités, études, etc. Mais ils ne sont toujours pas seuls, ils ne sont plus seuls, on va dire ça comme ça. Ils ne sont plus seuls, puisque vous organisez un réseau local, provincial, par terroir, où il se retrouve avec les mêmes personnes avec des personnes de sa région avec qui il organise des événements, c'est ça ?
Exactement, et ce qui fait que même quand on déménage et qu'on connaît personne dans sa région, le fait d'être à l'IFP, il m'envoie un message en me disant « Ah, j'arrive dans telle ville, est-ce que tu peux m'intégrer au groupe ?» Donc je les intègre au groupe et voilà, en quelques secondes, ils peuvent avoir accès à plein d'auditeurs qui habitent dans la ville en question et s'organiser un apéro ou les rencontrer ou rejoindre les associations sur place.
Donc là, ils s'organisent tout seuls ou c'est vous qui vous...
Et là, ils s'organisent tout seuls, mais moi, je les ajoute dans les groupes.
Donc vous, donc c'est de la subsidiarité.
Exactement. Alors après, je peux me faire des mises en relation directes aussi. Hein. Ça m'arrive, si je connais un auditeur dans le coin, je peux envoyer un numéro,
donc
ça je peux le faire aussi.
Donc ne sommes pas jacobin à l'IFP, c'est ce que vous allez me dire, c'est ça?
Exactement.
Donc c'est la subsidiarité, c'est-à-dire que vous leur donnez l'autonomie pour s'organiser, mais vous êtes toujours en appui.
C'est ça, exactement.
Vous êtes toujours en appui pour pouvoir les aider à s'organiser.
Et puis on va aussi souvent en région aussi pour les rencontrer. C'est vrai qu'on organise aussi parfois des formations et des apéros en région aussi pour pouvoir favoriser aussi le contact et la rencontre.
Alors il nous reste 1 minute 30. Est-ce que vous avez un dernier mot rapide à dire, un appel, quelque chose, Justine?
Bien écoutez, moi je tiens encore une fois à remercier vraiment nos donateurs, nos mécènes, s'ils nous écoutent, et j'encourage tous ceux qui ont été convaincus par tout ce qu'on a pu dire de soutenir l'IFP. Comme je le disais, ça peut se faire de plusieurs manières, que ce soit en recommandant des gens, notamment les parents si vous avez des lycéens, et aussi par un soutien financier. Donc je tiens vraiment à vous remercier et je vous encourage à soutenir cette belle mission qu'est l'IFP.
Sur le site ifpfrance.org, Lénaïgue.
Engagez-vous et venez rejoindre la grande aventure de l'IFP. Vous ne le regretterez pas, ce n'est que 50 euros pour un grand investissement derrière.
Voilà, engagez-vous pour la France et pour notre belle nation. Je vous remercie Lénaïgue, je vous remercie Justine, je vous remercie chers auditeurs, merci pour la réalisation, merci chers auditeurs de votre fidélité et vive la France.
D'entendre Tout est politique, dirigé par Thomas Gabriel, diffusé en direct sur Radio Courtoisie vendredi 29 mai 2026, de midi à 13h30 et réalisé par Claudia. N'oubliez pas que Radio Courtoisie est une radio culturelle associative. Afin de sauvegarder une indépendance absolue, Radio Courtoisie refuse toute ressource publicitaire. Radio Courtoisie ne vit que grâce à ses auditeurs, aidez-nous à demeurer libres. Rendez-vous sur soutenir.rc.fr et accédez à l'ensemble de nos archives à partir de 5 euros par an. Si vous le désirez, nous pouvons vous faire parvenir un enregistrement de cette émission. Commandez le CD-ROM pour le prix franc de port de 9 euros ou 6 euros seulement si vous êtes adhérent de notre association. Je vous rappelle notre adresse, Radio Courtoisie, 61 boulevard Murat, 75 016, Paris.